Rassurez-moi, l'enquête ouverte dont on parle.
La prise en charge des frais liés à la grossesse est-elle la même si le suivi est effectué en maison de naissance par une sage-femme que si le suivi est effectué par un gynécologue? Eh bien, cette question, elle est posée par une auditrice qui s'étonne d'une différence de remboursement entre sa première grossesse et la seconde. Frédéric Volery.
C'est précisément en fait la prise en charge de certaines analyses médicales qui pose problème. Je m'explique. Sarah a accouché dans une maison de naissance pour son premier enfant. Lors de cette première grossesse, elle effectue les deux premiers rendez-vous ainsi que les premières analyses médicales chez un gynécologue. Puis, après la 13e semaine de grossesse, Sarah prend la décision d'être suivie par des sages-femmes jusqu'à l'accouchement dans la maison de naissance Tilia à Neuchâtel.
Jusque-là, tout va bien.
Tout va bien. Aucun problème de prise en charge par son assurance Assura. Et comme tout se passe extrêmement bien lors de cette première grossesse, dans cette maison de naissance dont elle loue les innombrables qualités, la chaleur humaine, la prise en compte du papa, l'environnement calme, etc., Sarah décide donc naturellement d'effectuer le suivi entier de sa deuxième grossesse dans la maison de naissance Tilia. Mais là, surprise, une large partie des analyses faites lors du premier rendez-vous de grossesse à 8 semaines ne sont pas prises en charge. Sous chaque décompte, Assura justifie sa décision en indiquant « prescrite par une sage-femme » ou « ne peut être mandatée prescrite par une sage-femme » faisant référence à la liste des analyses de l'Office fédéral de la santé publique.
Ah. Et cette maison de naissance, qu'est-ce qu'elle dit face à ce refus de prise en charge?
Alors la sage-femme responsable de la maison de naissance Tilia, d'abord elle ne comprend pas le refus de l'assurance Assura, qui est la seule à réagir ainsi. Elle nous explique que cette assurance pose problème depuis le mois de décembre. Et puis comme la maison de naissance n'avait pas averti la patiente, la sage-femme responsable décide d'emblée de rembourser la patiente. Mais Sarah ne souhaite pas en rester là, voici ce qu'elle dit.
Selon l'OFSP, les 7 examens de grossesse lors d'une grossesse normale peuvent tout à fait être effectués par une sage-femme. Pourquoi, dans ce cas-là, la MAL ne prend-elle pas en compte les prescriptions des analyses de base qui y sont liées? Comment les sages-femmes peuvent-elles ainsi faire correctement leur travail? Il me paraît que l'information est floue, surtout pour les patientes, et qu'Assura en profite. J'étais loin de me douter que je devais parcourir des brochures peu claires de l'OFSP et des listes d'analyses avant la première consultation de grossesse.
Et de son côté, que dit l'assurance?
Nous avons contacté Assura qui nous a répondu ceci hier.
Les analyses prescrites par la sage-femme de notre assurée ne faisaient pas partie de celles pouvant être prescrites conformément à ce qui est défini de manière exhaustive à l'article 16 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins. Nous tenons à souligner que, ayant constaté que notre assurée consultait uniquement une sage-femme durant sa grossesse, notre service prestation maternité a, à plusieurs reprises déjà, informé cette assurée que la sage-femme n'était pas autorisée à pratiquer l'ensemble des prestations en cas de maternité. 4 courriels lui ont été adressés dans ce contexte, dont le premier le 5 décembre 2018, le 28 décembre ainsi que les 14 janvier et 13 mars 2019.
Alors toujours est-il que le 5 décembre, donc pour le premier courrier, eh bien c'est 7 semaines après le premier rendez-vous de l'auditrice qui date du 19 octobre. Les analyses non prises en charge ont été effectuées ce même jour d'octobre. Donc l'auditrice ne pouvait pas connaître toutes les subtilités de l'OPAS avant son premier contrôle. Et puis Théo, franchement, 12 et moi, oui. À moins de travailler, on en parle. Qui a envie d'éplucher la lamale ou encore l'opase en pleine grossesse?
Oui, c'est vrai. À part notre collègue Yvan Incornu qui s'endort tous les soirs en lisant quelques pages de la lamale. Ça, on le sait bien. Sinon, personne. Bon, on va tenter d'y voir plus clair avec nos deux invités. Il y a Evelyne Moreillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme et directrice de la maison de naissance La Grange Rouge à Grand, c'est au-dessus de Nyon, dans le canton de Vaud. Et puis vous êtes aussi vice-présidente de l'association SP Sage-Femme, dont la maison Tilia est membre, c'est ça. Et puis il y a à côté de vous, Madame Ariane Ayer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée en assurance sociale au sein du bureau d'avocats Lex Publica. Evelyne Moreillon, on commence avec vous. Vous exercez en maison de naissance depuis 20 ans. Les maisons de naissance sont de plus en plus connues, mais peut-être pas par tous nos auditeurs. Vous pouvez vous proposer une alternative à l'accouchement en milieu hospitalier, c'est ça?
Voilà, exactement.
Comment ça se passe concrètement? Vous faites tout le suivi en maison de naissance?
Alors voilà, une maison de naissance, c'est un lieu où on accueille les couples qui choisissent effectivement une alternative et qui ne voulaient pas comme alternative d'accoucher à domicile. Donc c'est un entre-deux et ça leur permet de pouvoir vivre une naissance peu médicalisée ou seulement en cas d'urgence, voire pas médicalisée du tout, et en respectant l'autodétermination des femmes, donc le libre choix de position, d'accoucher dans l'eau, enfin, et d'être en couple et de vivre peut-être même aussi un séjour tout en famille chez la sage-femme. Parfois c'est dans sa maison privée, parfois c'est dans une maison privée qu'elle loue à l'extérieur de son foyer.
Alors, ces avantages, en tout cas, de pouvoir vivre cela en famille, ça a été relevé par notre auditrice. L'accouchement en maison de naissance, il est pris en charge par les assurances, pour autant que la maison de naissance soit sur une liste cantonale, ça on le répète. Mais pourquoi certaines des analyses médicales effectuées par Sarah, notre auditrice, n'ont pas été prises en charge par Assura? Est-ce que vous avez une explication, Evelyne Morayon?
Oui, alors l'explication, elle est très simple. Les sages-femmes doivent se référer à une liste de prescriptions pour sages-femmes. Il y a 18 examens pour les femmes et 5 pour les bébés qu'on peut faire sans autre. Et si on doit aller au-delà, théoriquement, on devrait demander une ordonnance médicale systématiquement. Ce qui est parfois peu réalisable sur le terrain quand elle arrive avec une infection ou des contractions prématurées où on devrait agir assez vite pour déterminer le diagnostic.
Donc vous pouvez faire toutes ces analyses, mais là, certaines n'ont pas été prises en charge.
Parce qu'elles n'étaient pas sur ordonnance médicale.
Ok, elles auraient dû être sur ordonnance médicale.
Oui.
Et l'auditrice, elle aurait dû en être informée comment?
Ce qui se passe, c'est que elles auraient dû... Il y a un flou artistique, si vous voulez, dans la loi, parce que la sage-femme peut suivre une grossesse physiologique. Elle doit collaborer avec le médecin en cas de risque et elle doit travailler sur ordonnance si c'est pathologique. Or là, on n'est pas encore dans la pathologie puisqu'on essaie de dépister le risque. Alors rien que de collaborer, par exemple là, typiquement, l'hôpital de Portalès demande à Tilia de faire les examens de routine que eux font de toute façon pour qu'on puisse dépister les éventuels risques. Or, c'est de la collaboration. On est dans le statut collaboration. Alors pour nous, comme sage-femme, c'est vrai que toutes les assurances, la plupart du temps, prennent en charge parce que c'est de l'évidence. Et c'est une question de bon sens. Mais Assurac est une assurance qui regarde vraiment tous les points de façon très détaillée. Cette année, ils ont mis leurs détails là-dessus.
Ariane Ayer, je vous vois hocher de la tête. C'est l'assurance qui est pointilleuse ou, enfin, qui devrait informer la patiente?
Alors, Assura, dans ce contexte-là, ne fait que respecter les ordonnances et la liste des analyses qui fixent effectivement un certain nombre d'analyses qui peuvent être prescrites par les sages-femmes et qui sont remboursées à ce titre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours dissocier dans la LAMAL l'activité de professionnel de la santé qui dit je devrais avoir tel ou tel résultat ou telle analyse et la prescription remboursée par la LAMAL. Et là, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent être source de confusion, c'est-à-dire que pour faire bien son travail, une sage-femme devra peut-être demander certaines analyses. Par contre, si elle demande des analyses qui ne sont pas dans la liste, effectivement, ces analyses ne seront pas remboursées. Donc c'est une nécessité de déléguer la patiente vers un médecin ou d'aller rechercher une prescription médicale pour ces analyses qui seront remboursées à ce moment-là.
Mais Ariane Ayer, c'est quand même quelque chose que vous constatez dans votre pratique quotidienne d'avocate spécialisée en assurance sociale. Certaines assurances deviennent de plus en plus pointilleuses.
Alors oui et non, c'est-à-dire que toutes les assureurs ont l'obligation de rembourser exactement la même chose. Donc après, elles ont des pratiques différentes. Maintenant, dans la pratique, en tout cas pour ce cas, on ne peut pas, en l'état et par rapport aux analyses qui ont été prescrites et ce qu'a dit Madame Morayon tout à l'heure, qu'effectivement, on ne peut pas jeter la pierre à Assura de vérifier la prescription et de voir si c'est une prestation qui est remboursée ou pas.
Alors, en principe, les prestations en maison de naissance sont remboursées. Y a-t-il des différences de prise en charge des frais de grossesse selon que le suivi est effectué par une gynécologue ou une sage-femme, Ariane Ayer?
Alors, la LAMAL prévoit très clairement trois situations qui ont déjà été évoquées par Madame Morayon, qui sont en lien, avec l'autonomie de la sage-femme comme professionnelle de la santé autorisée à pratiquer à charge de la LAMAL. Et à la fois, on va faire cette graduation en fonction de la grossesse, du type de grossesse, et c'est ce que disait Madame Morayon tout à l'heure. Dans une grossesse dite normale, elle a été utiliser le mot physiologique, mais dans la loi, c'est marqué une grossesse normale. Dans ce contexte-là, il y a une prise en charge qui peut être faite identique en termes d'effectivement de contrôle par une sage-femme ou par un gynécologue. La loi exige juste que, soit que si c'est la prise en charge est complètement faite par la sage-femme, qu'elle informe la patiente qu'elle doit, enfin qu'il est conseillé, qu'il est indiqué plutôt, je crois que c'est ce que dit la loi, de consulter un médecin. Et puis, à l'inverse, si le suivi est fait que par le gynécologue, il est conseillé aussi d'indiquer à la patiente qu'elle peut être suivie par une sage-femme. Donc ça, c'est ce que la loi exige en termes aussi de collaboration interprofessionnelle. Alors la grossesse normale, pas de problème à ce niveau-là. Si la grossesse est à risque, mais sans pathologie, sans problème pathologique, à ce moment-là, c'est la collaboration qui a été mentionnée. Et ça, la loi prévoit cette collaboration. Donc à la fois, ça veut dire qu'effectivement, si la sage-femme ne peut pas prescrire ou que ne sera pas remboursée, à ce moment-là, c'est le médecin qui fera la prescription. Et puis, la grossesse qui est pathologique est là où ça, la sage-femme agit comme un autre professionnel de la santé sur prescription médicale. Donc la collaboration, elle est un peu plus verticale, on va dire, dans le sens où c'est le médecin qui va prescrire les actes que peut faire la sage-femme. Et c'est sur la base de cette prescription que ce sera remboursé. Donc ça fait, à la fois, ça crée une graduation dans l'autonomie de la sage-femme et en même temps, ça crée les obligations de remboursement des assureurs en fonction du type de grossesse. Donc c'est peut-être cette catégorisation de la grossesse au départ qui peut être problématique et qui doit être peut-être clarifiée pour que... alors bien sûr que ça peut évoluer, hein. Une grossesse ne peut être peut-être à risque aussi au milieu de la grossesse, où c'est pas figé dans le marbre au début, mais ça c'est vraiment cette collaboration interprofessionnelle qui est voulue aussi par la LAMAL dans ce contexte-là.
Mais Evelyne Morellon, là, on était en tout début de grossesse pour le cas de notre auditrice. Si je vous comprends bien, c'est un problème de communication entre la maison de naissance, l'hôpital et le labo. C'est difficile de savoir qu'aurait dû faire la patiente.
Bon, la patiente, dans un premier temps, elle n'est pas au courant, donc elle ne sait pas. Elle accepte les examens qu'on propose parce que c'est pour son bien, donc forcément, elle a confiance. La sage-femme, je pense que c'est clair, elle devrait indiquer les examens où elle a besoin d'une ordonnance, dans tous les cas. Elle doit au moins téléphoner à ce moment-là, si c'est l'hôpital qui les exige, parce qu'ils se disent, en cas de transfert, nous, on a besoin de ça pour checker. Elle doit au moins alors avoir un contact avec l'hôpital pour dire, écoutez, voilà, Madame Intel vient à tel moment, on aurait besoin de faire ça, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut avoir une ordonnance? Ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait pour que la femme soit remboursée. Maintenant, si c'est vraiment une demande systématique de l'hôpital pour toutes les femmes qui sont suivies à Tilia, bah, je pense qu'il faut qu'ils aient une entente entre les deux, une espèce de convention qui fait en sorte qu'ils ont systématiquement les ordonnances sous la main pour faire ces examens. Puis c'est, la question, elle est réglée, puisque c'est une exigence de l'hôpital, finalement. Et je ne suis pas du tout sûre qu'à posteriori, l'hôpital ne puisse pas faire l'ordonnance pour cette dame qui puisse être remboursée. À D'accord. mon avis, c'est tout à fait possible.
Donc c'est un problème de code de l'analyse, en réalité. Est-ce que les sages-femmes, elles sont formées à ces subtilités de savoir que telle analyse avec tel code, elle sera prise en charge, telle autre, elle nécessite une prescription médicale.
Alors ça, c'est une excellente question. Non, je dois avouer, non, on n'est pas formé pour ça. On est formé dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on fait la totale parce que de toute façon, les médecins, ils ont besoin pour tel et tel cas pathologique dans les services d'avoir tous ces examens. Donc quand on s'installe, si on n'a pas une sage-femme qui nous marraine pour nous expliquer ces subtilités-là, on n'en a juste aucune idée. Maintenant, une solution que nous avons trouvée avec notre laboratoire, ils nous ont fait une feuille d'analyse avec uniquement les prescriptions qu'on a le droit de faire sans ordonnance. Et comme ça, au moins, si tout d'un coup on aimerait faire autre chose, on le voit tout de suite que ça manque et on sait qu'on appelle le médecin. Et on n'a pas de problème avec les toutes jeunes qui s'installent.
Ariane Ayers, le fait qu'il n'y ait pas de formation spécifique, ça vous surprend?
Alors, ça me surprend un peu, effectivement. Et je pense qu'il y a peut-être... une nécessité de formation post-grade peut-être au niveau de la fédération professionnelle parce qu'effectivement c'est un élément très important puis on le voit avec la réaction de cette auditrice c'est une obligation des professionnels d'informer sur les coûts pas nécessairement sur tous les coûts, mais en tout cas sur la prise en charge ou non par l'assurance maladie. Et c'est vrai que ça fait partie de leur tâche en lien avec des obligations de respect des droits des patients. C'est vraiment ce devoir d'information qui est là. Et c'est en lien aussi avec la question du remboursement. Et je pense qu'il y a une nécessité, effectivement, s'il y a une nécessité de formation identifiée, je pense que effectivement, c'est à l'association professionnelle peut-être de prendre vraiment les moyens pour que les personnes qui s'installent comme indépendantes puissent bénéficier d'une formation éventuellement avec, on pourrait imaginer une collaboration avec les assureurs, parce que c'est aussi eux qui doivent informer sur la prise en charge des coûts. Et là aussi, l'assuré aurait pu tout à fait se renseigner avant.
Alors justement,
son assurance.
Justement, rien à dire. L'auditrice oui. L'a dit, elle n'a pas franchement envie de passer sa grossesse à éplucher la lamelle, et puis on la comprend un peu. Mais elle souhaite informer les autres futurs parents afin qu'eux ne se retrouvent pas dans la même situation qu'elle. Alors, quel conseil leur donner pour éviter ce genre de problème administratif? Qu'est-ce qu'on fait? On change d'assurance? On différencie en fonction du fournisseur de prestations?
Alors, changer d'assurance, je ne pense pas que je pourrais le conseiller comme ça, parce qu'effectivement, dans ce cas particulier, peut-être c'est une pratique plus pointilleuse d'assureur à voir, mais les assureurs devraient faire ce travail-là. C'est aussi leur tâche d'assureur de vérifier les factures, de vérifier la prise en charge, et si ça ne correspond pas à la loi, on ne peut pas leur jeter la pierre. Par contre, ce qui est dans les tâches, et c'est un peu ce que relève aussi Assura quand ils vous répondent, c'est qu'ils ont l'obligation d'informer les assurés, donc ils ont cette obligation d'information, mais aussi en information préalable, c'est-à-dire qu'ils doivent renseigner une assurée ou un assuré qui s'adresse à leur guichet ou par leur site internet, je ne sais pas par quel moyen, qui demanderait effectivement s'il y a un problème de prise en charge. Alors, c'est un conseil qu'on donne régulièrement pour les assurances complémentaires, ça vaut aussi pour la LAMAL, c'est-à-dire que ça vaut la peine de se renseigner précisément et auprès des assureurs et puis auprès effectivement des fournisseurs de prestations, en l'occurrence de la maison de naissance, des sages-femmes, pour avoir une vision globale des problématiques qui pourraient se poser dans un cas particulier.
Frédéric Vaulry.
Evelyne Morillon, vous craignez que toutes ces subtilités découragent les futurs parents à opter pour un accouchement en maison de naissance ?
Non, pas du tout. Ça concerne d'ailleurs pas que les maisons de naissance, c'est les accouchements à domicile. Tous les suivis à domicile sont concernés chez les sages-femmes indépendantes. Mais non, pas du tout, je pense pas. Parce que d'ailleurs, la Fédération des sages-femmes actuellement est en pourparlers avec l'OFSP pour pouvoir revisiter cette liste d'analyse. Donc les choses sont simplement en cours. On a un cran de retard.
Donc si on peut donner un conseil, c'est que si on change de situation, si on a accouché par exemple en hôpital et qu'on passe à une maison de naissance, renseignez-vous, posez des questions, que ce soit à la maison de naissance ou à l'assurance, ça vaut la peine pour éviter les mauvaises surprises, je crois que c'est ce qu'on retiendra.
Evelyne Morillon, sage-femme et directrice de la maison de naissance La Grange Rouge, et puis Ariane Ayer, avocate spécialisée en assurance sociale, merci beaucoup d'être venue dans nos studios, passez une excellente journée, et puis on va profiter pour remercier notre auditrice qui devrait accoucher dans les prochains jours. C'est juste, Frédéric.
C'est juste.